capsule santé. Le diabète, il s'agit d'une maladie chronique qui se déclare lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, l'hormone qui régule la glycémie, ou lorsque l'organisme n'est pas capable d'utiliser efficacement l'insuline qu'il produit. Véritable problème de santé publique, on parle du diabète dans ce numéro de Capsule Santé. Mais avant, direction le Burundi où les autorités sanitaires cherchent à éradiquer le choléra, une maladie diarrhéique aiguë qui est endémique dans le pays. Carole Assignon au micro, vous écoutez Capsule Santé. Bonjour à toutes et à tous. Plus de 400 000 cas recensés cette année, une trentaine de pays touchés selon l'Organisation mondiale de la santé. Dans le monde, le choléra continue de sévir et les épidémies de choléra s'aggravent. Le choléra, on le rappelle, est une infection diarrhéique aiguë provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée. Au Burundi, pour faire face au choléra endémique dans le pays, le gouvernement et ses partenaires du secteur de la santé mettent l'accent sur la sensibilisation communautaire. Ils insistent notamment sur des mesures d'hygiène comme la pulvérisation des toilettes ou encore l'accès à l'eau potable et le lavage des mains. Le reportage d'Antéditest Niragira, notre correspondant à Bujumbura.
La campagne de désinfection par pulvérisation des latrines dans les ménages et les dépotoirs d'immondices au nord de Bujumbura est une occasion qui permet de procéder en même temps à la sensibilisation communautaire. Nous suivons l'une des équipes en campagne. Sirdi Niokubgayo, 61 ans, est un agent de santé communautaire, un pont entre le ministère de la Santé publique et la communauté dans le cadre de la sensibilisation sur le choléra. Il opère depuis 22 ans dans les quartiers populaires du nord de Bujumbura.
Nous leur disons que c'est une maladie contagieuse et qu'elle tue si l'on ne se fait pas soigner à temps. Nous leur parlons aussi des symptômes de cette maladie avant de leur expliquer les moyens de prévention et de lutte. Pour se protéger, il faut se laver le plus souvent les mains avec de l'eau propre et du savon, car partout il y a de l'eau, mais elle n'est pas toujours propre. En cas de symptômes, la personne concernée doit se rendre au centre de traitement jusqu'à la guérison.
Les équipes d'agents de santé communautaire se répartissent les tâches par quartier pour sensibiliser contre les épidémies. Pulvériser les toilettes, désinfecter les dépotoirs et sensibiliser les ménages, ce sont là leurs principales armes contre le choléra. Évariste Bukayeneza, représentant de l'organisation Action et Humanisme, participe à la campagne.
L'épidémie de choléra ne se combat pas au centre de traitement, mais plutôt dans les communautés. Nous nous rendons à l'origine de l'épidémie et nous procédons à la pulvérisation avant que les malades n'arrivent au centre de soins. Je dirais aux agents de santé communautaire de pulvériser le plus souvent et de sensibiliser davantage.
Mais plus de 4 décennies après son apparition, le choléra continue de sévir et est devenu endémique malgré les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires pour en venir à bout. Nous avons assisté à une réunion de validation d'un plan de riposte contre le choléra entre les services de l'État et ses partenaires privés, locaux et internationaux, engagés dans la lutte contre la maladie. Liliane Nkengurutse est responsable du Centre des opérations d'urgence et de santé publique.
Ces derniers jours, on voit l'augmentation de façon exponentielle des cas de choléra. Donc, ceci nous a poussé à actualiser le plan de riposte choléra qui était déjà en vigueur.
Selon les dernières données du ministère de la Santé publique, de janvier à fin octobre dernier, 2030 cas de choléra ont été enregistrés au Burundi. 1933 patients ont guéri, 6 décès ont été confirmés et 91 cas restent actifs. Des facteurs environnementaux malsains, dont de l'eau sale et impropre à la consommation, sont des pistes à explorer, selon le représentant de l'Agence burundaise de l'hydraulique et de l'assainissement en milieu rural, partenaire de la lutte contre le choléra pour en finir avec cette maladie. Médecins sans frontières Belgique est l'une des organisations internationales engagées aux côtés du gouvernement burundais pour venir à bout du choléra et la mise en œuvre des stratégies qui portent déjà leurs fruits. Docteur Adélaïde Ouabo est coordinatrice pays de Médecins sans frontières au Burundi.
MSF apporte un appui pour la prise en charge. On fait aussi tout ce qui concerne l'hygiène, la prévention, le contrôle des infections. On fait aussi approvisionnement en eau potable.
Pour espérer un Burundi sans choléra, l'objectif est clair. améliorer durablement l'accès à l'eau potable, surtout dans les communes rurales encore vulnérables. En Teddy Aguila à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
DW.
Capsule santé, seconde partie. On va parler à présent du diabète, un problème de santé qui peut toucher tout le monde, les jeunes comme les moins jeunes. Le diabète, cause, conséquences et prise en charge. On en parle avec le docteur Kessi Sekpe, médecin interniste, diabétologue et présidente de l'Association togolaise du diabète.
DW.
Bonjour, docteur Sekpe.
Bonjour.
Pour commencer, un mot sur la situation du diabète au Togo.
Vu les chiffres que nous avons et la comparaison que nous faisons de 2010 et 2021, la prévalence a carrément doublé. Et donc, nous pouvons ainsi dire que l'incidence est supérieure à 100%. Le cas de diabète augmente de jour en jour dans notre pays.
Et comment expliquer cette augmentation des cas? On sait que le diabète est une maladie chronique qui touche aussi bien les jeunes que les moins jeunes.
Nous avons trois différents types de facteurs de risque. Nous avons les facteurs de risque liés à notre mode de vie, dans lequel nous avons donc l'absence de sport, donc le surpoids et l'obésité, et une alimentation déséquilibrée avec consommation excessive de sucre, de graisse. Et nous avons aussi des facteurs comme l'alcoolisme, le tabagisme. Nous avons aussi les facteurs de risque personnel qui sont liés à notre génétique. Pour dire que déjà l'âge supérieur à ou égal à 45 ans est déjà un facteur de risque donc de pouvoir de diabète. Et aussi, nous avons les antécédents familiaux. Être né d'une famille où le père est diabétique favorise ou du moins permet d'avoir 30% de risque de faire le diabète. Et quand nous avons deux parents diabétiques, 50% donc de risque de faire le diabète. Des femmes qui font des bébés qui ont des poids supérieurs ou égal à 4 kilos sont des femmes à risque de diabète. Et d'autres maladies aussi comme les crises de l'ovaire. Nous pouvons aussi parler de certains risques qui sont des risques intermédiaires, mais qui ne sont pas vraiment poignants. C'est l'hypertension artérielle, le taux élevé donc de lipides dans le sang.
Et il faut préciser aussi qu'il y a plusieurs types de diabète, hein, le diabète de type 1, de type 2, le diabète gestationnel. Un mot là-dessus, quelles sont leurs caractéristiques à toutes ces formes de diabète?
Alors, le diabète de type 1 est un diabète qui survient après la destruction pancréatique. Il survient le plus souvent à un âge jeune. Il peut aussi survenir à un âge très élevé où le patient a dépassé 55 ans. Mais cette destruction entraîne donc comme traitement l'utilisation uniquement de l'insuline. Nous avons aussi le diabète de type 2 qui est une destruction pancréatique, mais pas au même taux de destruction comme pour le diabète de type 1. Et ici, nous avons comme alternative le traitement par voie orale, donc les antidiabétiques. On peut aussi parler du diabète gestationnel. C'est un diabète qui apparaît chez la femme enceinte, surtout à partir du 6e mois, et qui s'apparente au diabète de type 2 et qui disparaît normalement après la grossesse. Mais dernièrement, il y a la Fédération internationale du diabète qui attire l'attention sur l'intolérance au glucose, qui n'est pas encore le diabète, mais qui est une phase pré-diabète, qui est une glycémie qui fluctue. On n'est pas dans une glycémie élevée, mais on n'est pas dans une glycémie basse aussi.
Vous parliez tout à l'heure aussi de l'insuline. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce que c'est?
Alors, l'insuline, c'est une hormone sécrétée par le pancréas. Elle est faite d'acides aminés. Le pancréas, à travers les îlots de Langerhans, fabrique donc de l'insuline. Et cette insuline permet donc la diminution du taux de sucre sanguin. C'est la carence à cette insuline-là, ou bien l'absence totale ou relative de cette insuline-là, qui est considérée comme donc la maladie du diabète.
Et dans ce contexte, comment justement sont prises en charge les personnes diabétiques?
D'abord, il y a la partie des mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire l'activité sportive, les régimes alimentaires. Nous y ajoutons, si besoin y est, les antidiabétiques oraux ou les antidiabétiques non insuliniques et parfois donc les antidiabétiques insuliniques.
Le diabète à toutes les étapes de la vie, hein, c'est le thème que l'OMS a retenu cette année pour la Journée mondiale du diabète. Comment vivre avec le diabète, puisque c'est une maladie, vous l'avez dit, chronique? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est diabétique?
Moi, je dis toujours que le diabète n'est pas une fatalité, mais c'est une question de discipline. dans le choix de mode de vie, donc dans le choix de mode alimentaire, inclure donc dans notre quotidien une activité sportive à faire au moins 2 à 3 fois par semaine, avoir un œil sur notre alimentation, c'est-à-dire réduire la quantité de sucre que nous prenons dans notre alimentation, la quantité de graisse, éviter les intoxications alcooliques, avoir un contrôle assez rigoureux de sa santé de façon périodique.
Donc faire souvent un contrôle de santé. J'aimerais qu'on parle aussi, docteur, des activités hein, de votre association, puisque vous êtes présent au Togo dans la sensibilisation. Et qu'est-ce qu'il en est en ce qui concerne le dépistage et la prise en charge?
Alors l'association togolaise du diabète essentiellement intervient donc dans la prévention primordiale, c'est-à-dire sensibiliser. Nous sommes en train d'organiser en collaboration avec le MNT et avec des associations mères de l'extérieur, donc des activités de formation des pères diabétiques pour pouvoir avoir un réseautage et un monitoring et un coaching donc de la population, de ceux, les volontaires donc, qui voudraient donc agir avec nous et pouvoir donc permettre à ce que la population soit informée. Nous organisons aussi des activités de dépistage.
Une chose est de prendre conscience, de connaître son statut en ce qui concerne le diabète. Mais comment se passe la prise en charge quand on est diabétique dans un pays comme le Togo? Est-ce que c'est simple de se faire prendre en charge?
Alors, l'accès aux soins actuellement est assez disponible dans les structures de santé. C'est le coût qui actuellement est la difficulté, étant donné que c'est une maladie chronique. You call for help when you need a friend. You call for help when you're down again. You call for help every now and then. You need some help.
C'est avec ces explications du docteur Kessy Sekwe, médecin interniste, diabétologue et présidente de l'Association togolaise du diabète, que prend fin ce numéro de Capsule Santé. Un numéro à retrouver comme tous les autres sur notre site internet et les différentes plateformes de podcast.